Radio Prague, les informations.
Les Verts ont décidé de rester au gouvernement. La Macédoine et la République tchèque ont signé un accord de coopération économique et industrielle. Les membres de la société Hand for Help se rendront à Haïti. Les ministres qui représentent les Verts au sein du gouvernement technocrate de Jan Fischer, Jan Dusik, ministre de l'Environnement, et Michal Kocáb, ministre chargé des minorités et des droits de l'homme, vont rester au gouvernement. Ceci en dépit du fait que leur réserve à l'égard de certaines des 38 mesures à courte haleine contre la crise persiste. C'est ce qui ressort des pourparlers qu'ont eu ce mercredi le chef des Verts Andrzej Liszka et le premier ministre Jan Fischer. Les Verts ont protesté notamment contre les projets de rénovation de la centrale thermique de Prunejov, d'élargissement de la centrale nucléaire de Temelin et contre le projet de construction d'écluses sur l'Elbe. Les représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce et ceux du gouvernement macédonien ont signé à Prague un accord de coopération économique et industrielle entre la Tchéquie et la Macédoine. Son objectif est d'encourager le commerce et les investissements mutuels. Cet acte s'inscrit dans le programme de la visite du premier ministre de Macédoine, Nikola Gruevski, à Prague. Une occasion pour ce dernier d'émettre le vœu que la Macédoine parvienne durant le mandat du commissaire européen chargé de l'élargissement, Stefan Füle, a entamé et a achevé les négociations d'accès à l'Union européenne. Les membres de la société Hand for Help, qui a son siège à Liberec, vont se rendre à Haïti pour y effectuer une mission d'aide grâce au soutien de la municipalité de Prague qui débloquera à cette fin 6 millions de couronnes. Sur place, les volontaires de la société Hand for Help vont coopérer avec 5 autres organisations caritatives auxquelles Prague fournira la somme de près de 26 millions de couronnes. C'est dans la deuxième moitié du mois de février qu'un premier membre de l'équipe se rendra dans la région pour évaluer la situation avant d'être rejoint au début du mois de mars par le reste de l'équipe qui comprendra au total 12 personnes. L'unité de lutte contre les crimes organisés a déposé au parquet de Ostrava le projet d'inculpation de 26 employés du géant énergétique tchèque chargés de contrôler les mauvais payeurs et de récupérer les sommes dues à la société pour la consommation d'électricité. L'ancien président tchèque Václav Havel souffre d'une inflammation de voie respiratoire et il est soigné par des antibiotiques. Une déclaration de l'attaché de presse de l'ancien président Sabina Tančevová. Selon cette source, Václav Havel s'est vu obligé d'annuler son programme pour les prochains jours. Pour le moment, la cure aux antibiotiques semble efficace, mais il est trop tôt pour dire quelle sera la longueur du traitement. D'après le serveur Novinky.cz, l'ancien président, âgé de 73 ans, est soigné à domicile. Les recherches du tombeau de Sainte Agnès effectuées dans l'église Sainte Astal à Prague se concentreront sur la partie gauche du socle de l'hôtel principal. Une prospection par radar a démontré que ce lieu pourrait cacher quelque chose qui pourrait répondre à l'objet recherché. Météo ce mercredi, jour de fête de tous les Moïmirs. Selon le calendrier local, le temps en Tchéquie est couvert avec de nouvelles chutes de neige sur l'ensemble du territoire. Les températures se situent autour de zéro. C'était le journal présenté par Alana Gavestova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Léna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. En ce milieu de semaine, trois grands thèmes figurent au sommaire de cette actualité. Une conférence sur les relations tchéco-israéliennes s'est tout d'abord tenue mardi à Prague à l'occasion du 20e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'occasion aussi pour le Premier ministre Jan Fischer de proposer la collaboration du gouvernement dans la résolution du conflit au Proche-Orient. Il sera ensuite question d'écologie. La qualité de l'air reste en effet très problématique dans certaines régions du pays en raison du froid qui continue de régner, mais pas seulement, comme nous vous l'expliquerons dans quelques instants. Enfin, nous terminerons avec une manifestation très particulière qui se tient tout au long de cette semaine, la Semaine nationale du mariage. De quoi s'agit-il exactement? Explication à la fin de ce magazine. En attendant, que vous soyez marié, célibataire ou même divorcé, très bonne écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, une conférence sur les relations tchéco-israéliennes s'est tenue mardi à Prague pour commémorer le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux États il y a de cela exactement 20 ans. Le Premier ministre Jan Fischer a également offert à cette occasion l'aide de la République tchèque dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Plus de précisions avec Anne-Claire Veluire.
Le 9 février 1990, Jiří Dienstbier, alors ministre des Affaires étrangères de la Tchécoslovaquie, et son homologue israélien Moshe Arendt signaient le protocole restaurant les relations diplomatiques interrompues entre les deux pays en 1967. 1967, c'est la guerre des six jours qui entraîne une rupture diplomatique entre Israël et les pays appartenant au bloc soviétique. La Tchécoslovaquie suit donc les injonctions de Moscou et coupe ses liens avec l'État hébreu. Des liens qui pourtant étaient assez important, comme le rappelle Jiří Dienstbier, sénateur et ancien ministre des Affaires étrangères.
Et même la posture de Masaryk n'était pas liée au hasard, parce que déjà à cette époque existait une sorte de phénomène d'Europe centrale et ses composants fondamentaux, les Tchèques, les Allemands et les Juifs, vivaient ensemble.
Jiří Dienstbier fait référence à la visite du premier président de la République tchécoslovaque sur le territoire du futur État hébreu en 1927. La Tchécoslovaquie a également été un des premiers pays à reconnaître son indépendance en 1948 et en avril 1990, quelques mois à peine après son accession à la présidence, Václav Havel s'était rendu en Israël. Il est à ce jour l'unique chef d'État d'un ancien pays du bloc soviétique à y avoir effectué une visite officielle. Jan Fischer aussi a voulu ainsi insister sur les rapports entre la République tchèque et Israël.
Nous avons pu nous convaincre ici à quel point ces relations sont solides, naturelles, et ce, bien qu'elles aient été artificiellement coupées pendant plus de 20 ans depuis 1967, mais elles ont continué.
Jan Fischer a également mentionné le fait que Prague est considérée comme le troisième centre de la culture juive au monde, après Jérusalem et New York. Au-delà des considérations historiques, la conférence avait aussi comme objectif de renforcer les relations économiques et commerciales avec Israël. Mais c'est aussi la question du conflit au Moyen-Orient qui reste au cœur des préoccupations. On écoute Jan Fischer.
Jakkoliv si uvědomujeme, že spravedlivé a trvalé mírové uspořádání.
Bien que nous ayons conscience qu'une paix juste et durable dépend de nombreux facteurs que nous ne pouvons pas entièrement influencer, nous sommes toujours prêts à apporter notre aide dans la mesure de nos capacités, notamment en tant que médiateurs. Ce n'est pas un secret de dire que la République tchèque, dans le domaine des relations avec Israël, appelle à une position forte et claire de l'Union européenne. L'Union européenne cherche cette position et nous oserons dire qu'elle ne l'a pas encore trouvée.
Le conflit israélo-palestinien intéresse aussi les Tchèques. Selon une enquête récente, 41% d'entre eux le classent comme appartenant aux 5 conflits les plus importants actuellement.
La qualité de l'air en République tchèque se détériore à nouveau. Récemment, c'était la région industrielle d'Ostrava, en Moravie du Nord, où le taux de pollution de l'air a plusieurs fois dépassé les valeurs limites à partir desquelles la situation devient alarmante. Cependant, ces jours-ci, la pollution envahit aussi progressivement d'autres régions du pays, comme nous l'explique Vassar Richter.
Josef Keder de l'Institut d'hydrométéorologie tchèque fait le bilan de la situation actuelle.
La
situation est la plus grave dans la région d'Ostrava, où a déjà été décrétée une régulation des sources de matières polluantes. La zone polluée s'étend cependant aussi vers la Moravie du Sud, vers la Bohême du Nord, et notamment sur le bassin des monts métallifères, une autre région qui souffre traditionnellement de pollution atmosphérique, et évidemment sur Prague, qui n'y échappe pas non plus.
Znamenající zhoršenou kvalitu ovzduší, no a samozřejmě Praha taky z toho není vynechána.
Le taux de poussière volatile dans l'air reste pourtant le plus élevé en Moravie du Nord. Les tests effectués dans la ville de Třinec démontrent par exemple que la valeur limite a été dépassée cette fois. Dans ce cas précis, il s'agit surtout de pollution industrielle, mais Joseph Keder rappelle que la fumée de maisons individuelles chauffées par des combustibles de mauvaise qualité peut produire pratiquement le même effet.
Při těchto těch mrazech mohou narůstat koncentrace do hladin, které jsou srovnatelné.
Pendant les périodes de gel, les taux de pollution peuvent atteindre un niveau comparable avec celui des régions industrielles. Dans ces petites communes, à quelques exceptions près, nous n'avons pas d'appareil de mesure et nous ne savons donc pas quelle est la situation dans ces localités. Pourtant, certains tests ont démontré que le niveau de pollution dans ces localités était vraiment comparable à celui de la région industrielle d'Ostrava.
Bylo zjištěno, že ty úrovně jsou tam opravdu srovnatelné s takovým ostravskem.
Les risques d'une telle situation pour la santé de la population sont connus. Le météorologue Libor Černíkovský conseille aux gens ce qu'il faut faire pour les minimaliser.
Zejména starší lidé, děti a nemocní by měli omezit pobyty venku, není vhodné.
Les personnes âgées, les enfants et les malades devraient en particulier réduire leur séjour à l'extérieur. Il n'est pas recommandé non plus de faire du sport. Les appartements doivent être aérés intensivement mais brièvement. Il est également recommandé de prendre plus de vitamines et évidemment de ne pas fumer et d'éviter les espaces fumeurs.
Bien que le signal de régulation des activités industrielles polluantes ait été donné, les entreprises ne sont pas obligées de le respecter, car les organes compétents n'ont pas encore imposé le code nécessaire pour l'application de cette mesure. Le système de régulation ne sera donc fonctionnel qu'à partir de fin février. Les météorologues rappellent cependant que l'industrie ne produit que le tiers des poussières polluantes et que le reste provient de la circulation automobile et des cheminées de maisons particulières. Nous pouvons donc tous faire quelque chose pour pouvoir à nouveau respirer sans difficulté.
Et puis, comme promis en introduction, la Semaine nationale du mariage, la plus importante campagne de soutien du genre à l'institution du mariage, se tient tout au long de cette semaine en République tchèque. Jarka Gisubelova a assisté à son lancement, au Sénat, qui en a pris le patronage.
Ensemble, dans la prospérité et dans la pauvreté, c'est le slogan de la Semaine nationale du mariage que les organisateurs ont choisi en rappel de la formule que les couples se promettent au moment du mariage, rester unis dans les bons et les mauvais jours. La Semaine du mariage est l'occasion de se rappeler au moins une fois par an que le mariage est une valeur élémentaire éprouvée par le temps, valeur qui mérite une plus grande protection tant de la part des couples que de l'État, résume le porte-parole Jan Frolik en parlant des objectifs de la semaine du mariage.
L'objectif de cette campagne est que les gens se rendent compte qu'un bon mariage n'est pas une évidence ou un hasard, et qu'il est nécessaire, pour qu'il soit durable, de s'investir dans l'édification de bonnes relations entre partenaires. Cette initiative, qui s'inspire de la Grande-Bretagne, où elle a vu le jour en 1998, est organisée en République tchèque depuis 2007. Cette année, elle en est donc à sa quatrième édition.
Cours pour marier, rencontres avec psychologues et consultants familiaux sont quelques-unes des manifestations proposées aux intéressés dans le cadre de la semaine du mariage. Il s'agit d'améliorer la communication et d'apprendre à mieux affronter les problèmes, souligne Jan Frolik, pour qui les couples heureux et ceux qui divorcent se trouvent confrontés dans leur vie aux mêmes problèmes et aux mêmes désaccords.
Peníze, děti, sex, domácí práce, rodiče toho druhého a čas.
L'argent, les enfants, le sexe, les travaux ménagers, les parents du conjoint et le temps. La différence réside dans la façon dont les bons couples trouvent une solution à leurs problèmes, c'est-à-dire d'une manière positive qui renforce leur relation.
Úspěšné dvojice řeší své neschody způsobem, který posiluje jejich vztah.
La tendance aujourd'hui est à reporter le moment où l'on se marie. Le nombre d'enfants qui naissent hors mariage est 5 fois supérieur à ceux nés au sein d'une famille classique, observe Marianne Hochek, psychologue et vice-ministre du Travail et des Affaires sociales, en parlant des aspects sociaux et démographiques du mariage.
Co je však alarmující, je to, že každoročně přibývá neúplných rodin.
Ce qui est alarmant, c'est l'accroissement annuel des familles monoparentales. Un mariage sur deux finit par un divorce. Le nombre de familles monoparentales atteint le chiffre de 580 000, alors qu'en 1961, c'était moins de 250 000. La tendance à la hausse des 50 dernières années est inquiétante et sans précédent.
Za posledních 50 let je obrovský, je to stav alarmující.
Des recherches sociologiques démontrent que le mariage prolonge la vie, améliore de façon significative la santé psychique et physique. Ses effets bénéfiques pour la situation économique des couples, mais aussi de la société, sont incontestables. La question posée à l'occasion de la semaine du mariage est de savoir si l'État en fait assez pour permettre un fonctionnement facile de la famille. La réponse est négative. Les lois permettant d'articuler dans de bonnes conditions vie familiale et vie professionnelle font défaut. Toutefois, les organisateurs de la Semaine nationale du mariage saluent le soutien apporté à leur campagne par des politiciens, parmi lesquels le Premier ministre Jan Fischer. Dans sa lettre intitulée « Dans la prospérité, dans la pauvreté », il écrit « Une bonne famille reste la seule institution au sein de laquelle l'individu peut vivre pleinement le sentiment d'amour, de sécurité, de solidarité humaine et intergénérationnelle sans être affecté par les hauts et les bas de la vie.
Voilà, c'est donc avec la semaine du mariage que se referment ces faits événements. Merci de votre attention et de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite consacrée comme chaque mercredi à l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Le 19e siècle ne fut pas que le siècle de la révolution industrielle, il fut aussi celui de la polka, qui déferle sur l'Europe depuis Prague dans les années 1840. Au-delà de leur aspect récréatif, musique et danse ont également véhiculé dans la Bohème et la France du 19e siècle de nombreuses symboliques. Avant la grande vague révolutionnaire de 1848 en Europe, c'est à une petite révolution dans le domaine de la danse que contribue la Bohème avec la polka. Venue de Prague, elle s'impose dès 1840 comme un véritable phénomène de mode à Paris. Présentée d'abord sur une seule scène, pour susciter immédiatement de nombreuses émules, la polka fait la fortune du Hongrois Cellarius qui l'enseigne à Paris. Comme le précise Destra, professeur de danse et érudit, dans son dictionnaire de la danse en 1895, il faut avoir passé l'hiver à Paris cette année-là pour se faire une idée exacte de la révolution qui explosa comme une insurrection dans tous les salons, pour saisir à quel point jeunes et vieux, mères et filles, magistrats et avocats, médecins et étudiants, s'abandonnaient aux plus passionnés des ébats polkaïques. Et il ajoute « Marques de vêtements d'hommes et de femmes, mets et entremets servis dans les plus somptueux dîners, tout ou presque, furent rebaptisés du nom de polka. En sortant de l'école, les gamins dansaient la polka dans les rues, en chantant l'air de bohème original. Sous la Restauration déjà, la mode parisienne cédait à une certaine attraction pour le slavisme, avec les pantalons polonais et les gilets cosaques, par exemple. Ces habits ne sont pas sans évoquer ce que l'on verra ici et là sur les barricades de Prague en 1848. La même année, on peut aussi se procurer à Paris un almanach des polkers. Au-delà des anecdotes, le succès européen de la polka a pu constituer une source de légitime fierté chez les Tchèques. D'autant plus que dans le contexte de la bohème du XIXe siècle, musique et danse sont également censées véhiculer l'âme nationale. D'ailleurs, les compositeurs tchèques comme Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich ou Antonín Dvořák recherchent une authenticité nationale avec la polka. Smetana ne déclare-t-il pas en 1862 « Étant tchèque, j'organise des concerts tchèques ». Il faisait allusion au débat sur l'utilisation des deux langues, tchèque et allemand, dans certains concerts d'oratorio à Prague. Smetana dirige la section musicale du Cercle des artistes créé en 1863. À partir des années 1886, le Cercle décide de s'adresser à un public de plus en plus populaire. Dans la France du XIXe siècle, la musique n'est pas une matière mise en avant dans le cadre de l'école, par exemple. Lors de la réorganisation des écoles primaires en 1883, les matières obligatoires ne comprennent même pas le chant et aucun livre de chant n'existe vraiment. En un mot, l'éducation musicale n'a pas sa place à l'école. En revanche, dans la formation des chorales, la situation est plus favorable. Dans les années 1830, Bocquillon rassemble les meilleurs élèves dans un chœur de 1200 voix intitulé l'Orphéon. En 1868, on compte plus de 3000 chorales disséminées un peu partout en France. Récréative, la chorale peut également prendre une dimension politique. Ainsi à Toulouse, dans les années 1840, les chorales défilaient dans les rues en chantant jusqu'à ce que la police le leur interdit. En Bohême, la chorale prend une dimension symbolique plus nette encore. En effet, le chant choral représente une forme traditionnelle de sociabilité slave et on connaît l'importance du chant choral dans la liturgie des premiers hussites. Il existe de nombreuses chorales en Bohême, comme l'association Hlahol, créée à Prague en 1861. Certaines chorales sont organisées par branches de métier, comme la chorale des typographes, qui donne des représentations dans les restaurants de Prague. Et à Malastrana comme à Smíchov, ce sont des groupes d'ouvriers qui pratiquent le chant choral.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui et malheureusement du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de taper le www.radio.cz et de choisir la langue française, bien entendu. Sinon, rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence. C'est d'ailleurs encore mieux, vous le savez mieux que nous. À très bientôt donc. Ahoy.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la Radiodifusión Checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 01.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.